Bien, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre des psaumes, comme il a été dit, au psaume 60. Et la semaine dernière, nous avons dit que ce psaume conclut la partie du livre des psaumes où le thème des prières est la délivrance de la main des ennemis. Le thème va ensuite changer pour être celui d'un désir de communion avec Dieu à partir du psaume 61. Mais ce matin, donc, nous allons regarder le psaume 60 et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes âmes bien-aimées soient délivrées, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. » Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et c'est la parole de Dieu. Les événements dont il est question dans le titre de ce psaume se rapportent au passage que nous avons lu tout à l'heure, en 2 Samuel chapitre 8. Et en lisant ce passage de 2 Samuel, je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais on a l'impression que David a avancé d'une victoire à une autre, sans véritable difficulté. L'expérience des croyants fonctionne rarement de cette façon. Et le psaume 60 indique que David a aussi connu des revers marquants. Et de plus, David a compris que ses problèmes étaient causés par l'irritation, le mécontentement de Dieu. Dans le titre, il est clair, il est dit que ce psaume est un miktam, un hymne traduit, c'est la traduction qui a été donnée à ce terme, un miktam pour enseigner. Et il nous enseigne à être prêt à faire face aux revers que l'on peut connaître dans notre vie spirituelle en revenant au Seigneur dans la foi, en se ressaisissant sous la bannière de la vérité et de la grâce de Dieu. Et on va diviser ce psaume en quatre points. Tout d'abord, un désastre douloureux. Dans le titre, il est dit que cette prière a été écrite lorsque David fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Le récit qu'on a lu dans 2 Samuel chapitre 8 relate cette période de bataille. Après avoir raconté, comme Wayne l'a souligné, dans les chapitres précédents, que David est devenu roi de tout Israël, qu'il s'est emparé de Jérusalem, ça c'est au chapitre 5 de 2 Samuel. Ensuite au chapitre 6, il a ramené l'Arche de l'Alliance au mont Sion. Au chapitre 7, comme Wayne nous l'a souligné, David désirait construire le temple pour le Seigneur, mais Dieu lui a refusé ce privilège. Et au lieu de construire une maison pour Dieu, Dieu promet de lui construire, de construire une maison pour David. Et en partie, en commençant d'abord par remporter les victoires sur ses ennemis. Et c'est par les victoires que nous avons en 2 Samuel 8 que le royaume de David obtient la paix qui allait permettre à son fils Salomon de pouvoir construire le temple du Seigneur. Les batailles de David à l'est du pays ont été menées contre les Araméens de Damas jusqu'à Tsoba, c'est le long de l'Euphrate, ça se trouve maintenant en Irak. Et il semble que pendant que l'armée principale de David était loin d'Israël, les Édomites et les Moabites qui sont plus au sud ont saisi l'occasion pour frapper, pour livrer une défaite brutale aux forces de David. Pour contrer cela, David a envoyé son général en chef, Joab, avec une armée assez forte pour vaincre les Édomites dans la vallée du sel, qui est près de la mer Morte. Et lorsque David a remporté la victoire sur Aram, lorsqu'il a vaincu Aram, il est revenu avec les principales forces de l'armée pour venir écraser l'ennemi. On l'a lu ça au chapitre 8 de 2 Samuel, au verset 13. Mais ceux qui lisent des récits de guerre avec le recul de l'histoire peuvent penser que les défaites mineures au milieu d'une guerre qui est considérée comme étant réussie sont une petite chose. Mais ceux qui vivent la guerre sont généralement alarmés par ces petits revers, et ce qui impliquait dans le cas ici l'envahissement des villes juives, la perte de nombreuses vies. Et David a compris ces défaites comme un reproche de la part de Dieu. Il s'écrit au verset 3, « Ô Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité. » Parfois dans la vie chrétienne, on se demande si les revers dans la vie indiquent l'irritation, le mécontentement de Dieu. Et la Bible nous dit que parfois, cela peut être la signification de ces revers. L'exemple classique est celui de la défaite d'Israël devant la ville d'Aï au temps de Josué, causée par la colère de Dieu contre le péché d'Acan. Mais le psaume 60 ne dit pas que David lui-même avait commis un grand péché contre Dieu. Possible que certains serviteurs de David aient transgressé contre Dieu, comme cela arrive si facilement en temps de guerre. Les châtiments de Dieu se produisent souvent en temps de victoire pour nous rappeler que le royaume doit être saint. Mais habituellement, si nous sommes tombés sous une discipline de Dieu, une discipline qui peut être sévère, on saura ce que le péché a causé. Un péché que nous commettons ouvertement en violation flagrante de la parole de Dieu. Chaque fois, en effet, que l'Écriture montre que Dieu délivre des punitions temporelles contre les péchés de son peuple, soit ils sont conscients de ce qu'ils faisaient de mal, soit Dieu rend leur transgression très claire. Et par conséquent, si nous commettons un péché évident que Dieu semble châtier, l'expérience de David soutient que nous devrions venir à la repentance, confesser notre péché, cherchant le pardon par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Dieu promet dans la première lettre de Jean, 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Charles Spurgeon écrit « Être rejeté par Dieu est la pire calamité qui puisse arriver à un homme ou à un peuple, mais la pire forme de celle-ci est quand la personne est indifférente. » David n'est pas indifférent. David n'est pas indifférent en réalisant dans ce moment de crise, cette irritation, ce rejet de la part de Dieu. Et il déplore cela sous la forme de deux analogies. D'abord, il compare cela à un tremblement de terre qui mine la sécurité de tout ce qu'il a construit. Verset 4, « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. » David craint que son royaume ne tombe. Alors il prie que Dieu ait pitié, qu'il répare la brèche, répare ces brèches car elles sont celles. Et deuxièmement, David compare la situation à un homme ivre qui titube, verset 5. « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. » Et ce que David décrit peut se produire dans l'Église et s'est produit dans l'Église tout au long de l'histoire. Des années de service fidèle sont gâchées par des péchés des responsables. Des occasions sont perdues à cause d'un petit nombre qui sème la division. Le doute et la confusion se semaient par des enseignants de fausses doctrines. Mais lorsque ces échecs et d'autres se produisent, la clé de la guérison sera généralement de savoir si nous sommes prêts à reconnaître et à confesser nos péchés, à prendre des mesures pour réparer ce qui a été endommagé, à nous tourner vers le Seigneur dans une foi qui est renouvelée. David s'est tourné vers le Seigneur dans ce moment de crise et il a été encouragé par la grâce et la vérité qui offrent le salut. Et le verset 6 parle de cette expérience dans ce qui est le verset clé de ce psaume. « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Le mot ici qui est traduit par « vérité » peut aussi se traduire par « arc ». Et compte tenu du contexte de la défaite et suivant les traductions anciennes, comme la traduction de la Septante, la traduction grecque, il est préférable de traduire ce verset en disant que la bannière de Dieu est érigée comme un point de ralliement pour ceux qui sont repoussés par les flèches ennemies, pour ceux qui sont chassé par les arcs. Tu as agité une bannière, nous dit une traduction, tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les archers. Et de plus, la présence d'une pause, dans certaines versions, il y a le terme « Selah » qui est traduit ici littéralement par « pause », suggère justement une pause de sorte que Dieu lève sa bannière pour rallier, pour ramener ceux qui ont connu une défaite. Dans une calamité ultérieure, le prophète Jérémie parle dans les termes similaires. Jérémie 4, verset 6, « Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. » Comme est censé faire le drapeau national, la bannière de la vérité de Dieu vient ériger une forteresse pour ceux qui sont assaillis par le monde et par l'incrédulité. Mais au moyen de cette bannière, on apprend que même dans les moments où Dieu semble rejeter son peuple et donner de la force à ses ennemis, il fournit toujours un refuge pour ceux qui sont fidèles. David affirme qu'il en reste beaucoup qui te craignent, qui peuvent ainsi fuir les armées ennemies pour se rallier sous la bannière de Dieu. Un commentateur dit que cette bannière est l'Évangile. Il dit des croyants, leurs actions montreront qu'ils te craignent. Et il pourvoira à leurs besoins et les défendra. Un désastre douloureux. Deuxième point, l'appel et la réponse. Une situation militaire à laquelle on peut comparer le sort de David dans ce psaume 60 est celle des Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont lancé cette offensive de la bataille des Ardennes. L'assaut a été choquant. Il a ouvert d'énormes failles dans les lignes alliées. Elle a semé la confusion parmi les commandants. Le succès allemand a fait croire aux alliés que la guerre pouvait être perdue. À un moment crucial de cette campagne, le général Patton a convoqué son aumônier pour qu'il publie une prière spéciale pour que le temps soit dégagé, ce qui permettrait aux forces aériennes alliées de couvrir les attaques sur le terrain. Et effectivement, il y a eu un changement de temps, ce qui suggère que Dieu a entendu les prières, de sorte que les bombardiers alliés ont pu soutenir les chars américains dans une contre-attaque victorieuse. Dans son inquiétude, David a également fait appel au Seigneur en raisonnant que si la colère de Dieu avait causé le désastre, alors seule la miséricorde de Dieu pourrait le réparer. Il a donc appelé Dieu en disant que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, exauce-nous. La prière de David montre que les moments où nous sommes au plus bas sont souvent les moments les plus précieux, parce que nous sommes poussés à appeler Dieu dans la prière. David savait que même si Dieu semblait avoir rejeté les Israélites, il restait ses bien-aimés. Et il possédait ainsi le privilège de faire appel à Dieu pour la délivrance. David a agi avec le même espoir qui serait exprimé par de nombreux prophètes bien plus tard. Zacharie 1, verset 3, par exemple, Dieu s'adresse à son peuple, « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » Jérémie 29, verset 12, « Vous me prierez et je vous exaucerai. » Et dans le psaume 86, verset 7, David lui-même déclare, « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » On peut se demander, étant donné la fidélité de Dieu à entendre les prières désespérées en temps de crise de son peuple, pourquoi on ne prie pas avec autant de ferveur? David a parlé au Seigneur dans la prière, mais ensuite il a cherché la réponse de Dieu dans sa parole. Verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté. Cette déclaration peut signifier que Dieu a parlé depuis son lieu saint, c'est-à-dire depuis le tabernacle, auquel cas Dieu a envoyé un message par les sacrificateurs ou par les prophètes. Mais il est beaucoup plus probable que David se réfère simplement aux déclarations de Dieu qui avaient été enregistrées dans les Écritures. La Bible présente Dieu comme parlant dans sa sainteté, pour que nous vénérions son enseignement comme les propres paroles de Dieu lui-même. Dans Ésaïe 55, nous avons lu ce verset. Il parle de ma parole qui sort de ma bouche. Malgré les efforts des érudits libéraux qui veulent ramener la Bible au niveau d'autres documents anciens, les Écritures elles-mêmes déclarent que Dieu a parlé. On peut lire les premiers versets de la lettre aux Hébreux. Dieu a parlé de différentes manières. Et la révélation particulière dont parlent les versets 8 à 9 se réfère aux promesses de pays que Dieu a données dans des passages comme Genèse 15 ou Josué, les chapitres 12 à 17. Les références de David à Sichem, la vallée de Succoth, à Galaad, à Manassé, marquent ce que Dieu avait décrit à Josué comme le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué 1, verset 6. Succoth était le lieu à l'est du Jourdain où Jacob s'est arrêté quand il est revenu de son exil. Sichem était le lieu où il s'était installé à l'ouest du Jourdain. Galaad et Manassé représentent les vastes territoires à l'est du Jourdain qui étaient menacés par l'avance de l'ennemi. Et en se souvenant des promesses que Dieu a attachées à ces noms de lieux, David est encouragé dans sa prière. Dieu a parlé non seulement de la terre qu'il défendrait, mais aussi des forces qu'il emploierait. David, il fait référence à la plus grande, la plus puissante des tribus d'Israël, verset 9. « Éphraïm est le rempart de ma tête », certaines traductions disent « le casque ». Il rajoute ensuite « Juda est mon sceptre », la tribu dont David était sorti. Et le Seigneur continue avec les ennemis qu'il allait mettre en disgrâce. Verset 10, « Moab est le bassin où je me lave, je jette mes souliers sur Édom, pays du Philistin pousse à mon sujet des cris de joie. » Voilà ce qui attend les ennemis de David, ces ennemis qui se vantent, ils seront, par la volonté de Dieu, placés dans une servitude élémentaire. Les Moabites deviendraient des ustensiles domestiques, les Édomites seraient comme des esclaves assignés à laver les chaussures de leur maître. Les Philistins deviendraient des objets d'une conquête puissante. Un commentateur écrit « Comme un colosse, Dieu domine la scène. Il ne s'agit plus de rivaux qui se battent pour la possession, mais du seigneur du manoir qui partage ses terres et ses emplois exactement comme il l'entend. » On peut tirer des leçons vitales du psaume 60. Premièrement, tout comme Dieu a rappelé à David sa promesse de préserver la terre, le pays pour son peuple, les chrétiens aujourd'hui peuvent être certains de l'héritage du salut que Dieu a promis en Jésus-Christ, un héritage qu'aucun ennemi spirituel ne réussira à nous prendre. Dans ce merveilleux cantique d'Éphésiens, chapitre 1, l'apôtre Paul loue Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Paul va ensuite énumérer ces bénédictions. Il note d'abord notre élection souveraine, Éphésiens 1, verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Il rajoute ensuite « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. De plus, étant venu au Seigneur Jésus-Christ par la foi, étant attiré par Dieu à venir à Christ par la foi, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Et ensuite, il dit, les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit qui a été promis. De sorte que la venue en nous de la troisième personne de la divinité sert d'acompte pour la gloire et la puissance de la vie éternelle à venir. L'Esprit Saint garantit notre héritage jusqu'à ce que nous en prenions possession. Le point qui est mis en avant, c'est que puisque Dieu a déclaré ses avantages à ceux qui sont en Christ par la foi, les croyants devraient se souvenir des choses, de ces choses dans les moments de difficulté afin de renforcer sa foi. Deuxième leçon, non seulement Dieu désire que le croyant connaisse le territoire du salut, le pays du salut qu'il a assuré pour nous. Il veut aussi que notre confiance soit renforcée par les promesses de sa parole, comme l'a été la foi de David. Nos cœurs douteux peuvent craindre que notre salut s'évapore comme une vapeur. Satan peut chercher à nous tromper en nous faisant douter de la sécurité de ce que nous espérons en Christ. Mais l'apôtre Pierre nous rappelle, en 1 Pierre 1, versets 4 et 5, que notre héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, 4 et 5. Alors, puisque nous sommes sûrs d'avoir nos hauts et nos bas sur notre pèlerinage, sur notre chemin dans la vie, comme David en a fait l'expérience, alors, comme lui, nous devons fonder notre foi dans la vérité de la parole de Dieu. Un commentateur écrit « La foi biblique n'est pas simplement de l'optimisme, comme certains le pensent. ni une attitude mentale positive qui nous aide à traverser les moments difficiles. Selon la Bible, la foi consiste à croire la parole de Dieu et à agir sur elle. Ce que David exprime dans ce psaume est ce qu'il a fait en réalité. On sait que David a cru, qu'il a agi avec foi à cause de la victoire de son, que son général Joab a remportée sur les Édomites dans la vallée du sel. Et comme David, les croyants de toutes sortes, de toutes générations, triompheront du mal, triompheront du péché, triompheront de la mort à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'ils font confiance, ils se reposent sur ce que Dieu déclare dans sa parole. Est-ce qu'on veut devenir fort dans la foi? Est-ce qu'on désire être plus ferme dans les épreuves? Est-ce qu'on veut posséder une antidote contre la paralysie que provoque l'anxiété, la peur? Comme le dit Jean Calvin, la parole de Dieu pour David était le principal motif de sa confiance. Si on s'engage à étudier la parole de Dieu, à s'exercer, à croire en ses promesses, on éprouvera une force, une paix croissante au milieu des difficultés de ce monde. Et un troisième point. Après le désastre douloureux, l'appel et la réponse, troisième point, avec Dieu, nous le ferons. Et les derniers versets de ce psaume 60 enseignent une leçon à partir de laquelle on peut faire trois applications précieuses. Et la leçon est que seul Dieu peut accorder la victoire à son peuple. Et c'est pour cette raison que notre relation avec Dieu est toujours le facteur vital dans toute équation. Dans le verset 11, David considère le problème posé par Édom. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Même après la défaite des ennemis de David, dans la vallée du sel, ils possédaient encore leur forteresse dans les montagnes, et la plus grande forteresse était Petra. Une forteresse connue pour être inaccessible, pratiquement imprenable. On ne peut approcher de Petra que par une faille étroite entre les falaises de calcaire qui serpentent vers l'intérieur pendant environ 3 kilomètres. Et à certains endroits, le passage est si étroit que seuls 2 chevaux peuvent se croiser. Dans cette configuration, donc, Petra pouvait être défendue par un groupe d'hommes très réduit. Et la ville elle-même était entourée de grottes de passage dans les montagnes d'où les Édomites pouvaient se défendre. David savait que la seule façon de briser une telle forteresse était avec l'aide puissante de Dieu. Mais David n'était pas appelé à conquérir les forteresses intérieures d'Édom, parce que Dieu a décrété la destruction d'Édom seulement plus tard, quand Édom a aidé les Babyloniens à prendre les Juifs captifs. Mais les archéologues affirment que en l'an 551 avant Jésus-Christ, Petra a été détruite par un tremblement de terre soudain, et qu'après ce tremblement de terre, la ville n'a jamais été habitée. David note au verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et le même principe est vrai pour nos batailles spirituelles aujourd'hui. Qu'il s'agisse de résister à la tentation, de témoigner de l'Évangile, ou de lutter contre les puissances mondaines du mal dans la société, seul Dieu peut donner la victoire. La première application, le signe que nous comprenons vraiment notre dépendance de la puissance de Dieu, c'est que nous devons nous engager sérieusement dans la prière. David était particulièrement pressant dans sa prière parce que c'était l'irritation de Dieu, le mécontentement de Dieu qui avait permis le succès initial d'Édom. Il prie au verset 12 et 13, « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. » sachant que le principal problème d'Israël n'était pas l'ennemi édomite, mais ses propres péchés, David prie avec repentance. Il demande à Dieu de pardonner, de revenir pour aider son peuple. Et rappelez-vous, Daniel a prié exactement de la même manière pendant son exil, pendant l'exil d'Israël à Babylone. Daniel 9, à partir du verset 4, et je ne veux pas lire le passage entier, simplement quelques extraits. « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. » Comme David et Daniel le savaient tous les deux, puisque Dieu seul peut donner la victoire, nous devons faire appel à sa miséricorde en Jésus-Christ. Et ensuite, chercher humblement l'aide puissante dont nous avons besoin. Nous engager sérieusement dans la prière. La deuxième application, une autre preuve que nous réalisons notre dépendance de Dieu, c'est que nous ne devons pas compter sur les méthodes mondaines ou le pouvoir humain. En regardant vers l'est et vers les forteresses d'Édom, David crie dans le verset 13, deuxième partie, « Le secours de l'homme n'est que vanité. » Alors que nous nous opposons aux forteresses de l'incrédulité et à l'opposition sensuelle à Dieu dans notre culture, notre succès dépendra largement de notre volonté de faire l'œuvre de Dieu, mais à la manière de Dieu. La voix de Dieu passe par la prière et par la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, si nous sommes encore dans la chair, nous ne combattons plus selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tout comme David a fondé sa foi sur la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, nous devons mener notre bataille spirituelle par la prière, en brandissant la parole de Dieu comme étant l'épée de l'Esprit pour rejeter l'opposition au Seigneur Jésus-Christ et à son Évangile. Il y a une troisième application, mais la troisième application, c'est le quatrième point. C'est Christ qui est notre bannière. L'application finale de ce psaume, c'est que les croyants doivent vivre courageusement sous la bannière que Dieu nous a donnée. David nous dit au verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et plus haut, si David a parlé de la bannière de Dieu en termes généraux, les croyants du Nouveau Testament savent que la bannière de Dieu pour notre salut est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le prophète Ésaïe a prédit en utilisant une désignation familière pour ce Messie qui était promis en Ésaïe chapitre 11, verset 10. « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Dans un sermon sur ce psaume 60, Charles Spurgeon a exposé quatre façons dont le Seigneur Jésus-Christ est la bannière de son peuple, nous permettant de nous rallier en fuyant les arcs ennemis, les flèches ennemies, et de gagner en audace dans le combat de la foi. Premièrement, Spurgeon fait remarquer que lorsqu'une bannière est hissée au combat, elle est exposée comme le point de rassemblement. De même, tous les vrais croyants se rassemblent dans la communion fraternelle et dans notre mission lorsque nous nous réunissons dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. en dehors d'une communion avec, d'une communion partagée en Jésus-Christ. Nous sommes divisés, nous sommes facilement dispersés. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est notre bannière, nous sommes unis et unis en force. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ et son évangile sont constamment attaqués, tout comme les ennemis dirigent leur volée là où la bannière est élevée. Aujourd'hui, les ennemis du christianisme attaquent la véracité des miracles de Jésus-Christ, l'authenticité de son enseignement, le but expiatoire de sa mort sacrificielle sur la croix, la suffisance de la foi dans son évangile. Nous devons nous rallier autour de ces thèmes, autour de ces vérités, afin que nous gagnions en force, que nous gagnions en audace pour sa cause. Deuxième point, la bannière de Jésus-Christ est le symbole de la défiance de son Église. Spurgeon dit, dès que la bannière est levée, elle est pour ainsi dire déployée contre l'ennemi. Elle semble lui dire, fais de ton mieux, allez, nous n'avons pas peur de toi, nous te défions. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ est prêché, il y a un défi lancé aux ennemis du Seigneur. Et en nous rapprochant de la bannière, en nous rapprochant du Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons qu'il a dit qu'il construirait son Église, qu'il bâtirait son Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Troisièmement, Spurgeon décrit le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre bannière comme l'emblème de la victoire pour son peuple. En entendant le Seigneur Jésus prononcer le pardon depuis la croix, en voyant le Seigneur Jésus ressuscité de la tombe, en ayant vaincu les puissances de la mort, en sachant que le Seigneur Jésus est monté au ciel, qu'il règne à la droite de Dieu, le croyant qui combat dans ce monde se réjouit que la bataille dans laquelle nous combattons a déjà été gagnée. Le Seigneur Jésus dit en Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et avec le Seigneur Jésus-Christ qui est assis et qui règne, l'apôtre Paul nous rappelle que rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, versets 38 et 39. Et quatrième moment, le Seigneur Jésus-Christ comme bannière est, nous dit Charles Spurgeon, toujours une source de consolation pour ceux qui sont blessés. Quand les flèches ont percé notre armure, ou que la force de nos bras est épuisée, le chrétien voit la bannière du Seigneur Jésus-Christ être toujours agitée. Et il se réjouit, parce qu'il sait que le Seigneur Jésus-Christ, par sa parole, viendra consoler nos cœurs attristés et fatigués. Alors comment peut-on être admis sous la bannière du Seigneur Jésus-Christ pour être vainqueur du péché, vainqueur du monde et même vainqueur de la mort. David le déclare au verset 6, « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. » Craindre Dieu, c'est confesser nos péchés, faire appel à la miséricorde de Dieu qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Craindre Dieu, c'est se soumettre à sa volonté royale, se tenir prêt à lui obéir, comme il nous exhorte dans sa parole. La crainte de Dieu, c'est l'évidence extérieure d'une grâce qui sauve à l'intérieur et qui consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et par cette foi qui s'exprime dans la crainte au Seigneur, n'importe qui peut trouver une place sous la bannière du Seigneur Jésus-Christ et de son évangile. Une bannière qui est toujours agitée par le vent puissant du Saint-Esprit, qui est souverain. Et sous cette bannière, aussi furieux que Dieu puisse agir en jugement à cause du péché, aussi furieux que soient les salves de flèches ennemies qui volent autour de nous, sous cette bannière, nous sommes en sécurité, nous sommes sauvés. Étant réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, notre bannière, le Seigneur nous enseignera à dire avec David, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs.